Place Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité politique de France Info à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT. Notre invité aujourd'hui, Florian Philippot, conseiller régional Grand Est et président du mouvement Les Patriotes. Bonjour Florian Philippot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour Naïla Latrousse.
Bonjour Julien.
Vous posez la première question à notre invité.
Florian Philippot, nous célébrons aujourd'hui le 75e anniversaire du débarquement en Provence. Emmanuel Macron compte souligner le rôle des combattants issus des anciennes colonies françaises dans la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est le président de la réconciliation des mémoires?
Oui, peut-être. Enfin, je pense qu'elle est déjà faite, en fait, la réconciliation des mémoires. Il faut évidemment honorer tous ces hommes qui sont tombés, qui venaient de France métropolitaine et de l'Empire. Et je crois qu'on les a pas oubliés. Hein,
c'est la première fois qu'ils se rendent à cette cérémonie.
Oui, bah c'est bien. Hein, voilà, c'est bien. Moi, je veux pas créer de polémique là où il y a pas de polémique à faire. C'est très bien. De toute façon, tout le monde est à égalité, à honorer à égalité. Et c'est très important de effectivement célébrer ce débarquement de Provence, qui a eu un rôle décisif aussi dans la résolution de la Seconde Guerre mondiale.
En 2 ans, au fil des célébrations, est-ce que le président a trouvé le ton juste pour incarner cette France éternelle qu'évoquait le général de Gaulle?
Ben, vous savez, je crois que c'est inné. Hein. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui disait « il faut faire président ». Je déteste ce genre d'expression parce que je pense que soit on est dans l'habit, dans le costume du président de la République, soit on n'y est pas. Là, il me semble qu'il est à sa place. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Aussi, je vais peut-être ajouter que c'est aujourd'hui également, on célèbre également autre chose. C'est le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon. Et je regrette que notre pays ne soit pas... Là, vous voyez, j'ai un petit regret. Je regrette que notre pays ne soit pas capable de sortir de cette posture un peu de masochisme national où on n'est pas capable de célébrer nos gloires. Les gloires qui, pourtant, sont reconnues dans le monde entier, mais pas en France.
Alors, vous réclamez un petit peu, hein, même beaucoup, de Gaulle, hein, dont vous célébrez régulièrement la mémoire. Le général de Gaulle qui aimait la démocratie directe, elle montre pourtant ses limites, notamment à l'occasion du référendum, hein, sur la privatisation d'aéroports de Paris. Moins de 650 000 signataires, on est pourtant loin du compte.
Oui, alors la procédure est compliquée, hein, que ce soit la procédure technique avec un site, on a l'impression que ça a été fait exprès, hein, un site très très compliqué à manier.
Vous avez signé, vous
Oui, j'ai tenté de signer pour l'instant, je vais peut-être m'y remettre parce que j'ai l'impression que ça n'a toujours pas été validé. Il faut que je vérifie, hein, mais j'ai l'impression que ça n'a toujours pas été validé après 3 essais, envoi de mon passeport, il faut l'envoyer en noir et blanc, etc. pour vérifier. Enfin, tout ça a été hallucinant en 2019, mais bon, là, il faudrait une procédure beaucoup plus simple, un vrai référendum d'initiative citoyenne. Pas de verrou parlementaire et 500 000 signatures au niveau national de Français inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est la vraie démocratie directe. Là, ça n'est pas la vraie démocratie directe.
Ceci dit, 500 000 signatures, c'est un référendum pour un oui ou pour un non sur n'importe quel sujet.
Non, 500 000 signatures, ça n'est pas si évident que cela. Non, vous savez, c'est le seuil en Italie pour un pays à peu près équivalent à la France. Ça n'est pas si évident à récupérer. Puis ensuite, il y a une campagne. Moi, je prouve que il vaut mieux plus de campagne qu'une absence de démocratie. Ceci dit, effectivement, ça n'est pas bien parti, cette affaire d'ADP. Or, c'est très important, parce qu'il faut se battre contre cette privatisation et il faut faire de ce référendum un grand référendum sur les services publics et un grand référendum sur la démocratie directe.
En étendant le champ ?
Oui, en étendant le champ, et je pense que ça se fera naturellement. Si le référendum a lieu, on parlera du référendum en lui-même, on parlera de la démocratie directe et on parlera beaucoup des services publics. Je crois que c'est très important. Mais il faut un électrochoc. Et je crois qu'à la rentrée, moi je vais écrire, ce sera plus simple, à tous les responsables de partis politiques qui défendent, comme les Patriotes, ce référendum et le refus de la privatisation d'ADP. Je vais écrire à ces chefs de parti, je vais écrire de toute tendance évidemment, je vais écrire également à des gilets jaunes, à des intellectuels qui se battent, hein, souverainistes, et puis j'aimerais qu'on puisse faire ensemble un grand meeting commun de rentrée, vous voyez, un grand meeting commun transpartisan. Parce que je crois que c'est un sujet...
C'est-à-dire vous mettez des socialistes, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, les gilets jaunes, tout le monde sur la même scène?
Oui. Oui, je pense qu'il faut absolument le faire. C'est un sujet qui est pas clivant, hein, honnêtement, un aéroport, la privatisation, on n'est pas sur des grands sujets idéologiques, donc je crois qu'on peut le faire. Je pense que ça créera l'électrochoc. Vous, les journalistes, vous viendrez. Alors que si chacun fait son petit meeting dans son coin, ce sera pas couvert. Et donc, il faut que ce soit couvert. Tous les Français en entendront parler. Et alors, les Français se diront, on va signer. Et voilà, moi je crois qu'il faut le faire. De toute façon, il faut arrêter avec ces clivages parfois complètement anesthésiants.
C'est pas gagné, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur la même scène tout de même.
Il faut le faire, ça dépend d'eux. En tout cas, moi, je m'y mettrai aussi sur cette scène. Et je crois que, vous savez, peut-être que demain, ces gens-là seront amenés à participer aux mêmes majorités gouvernementales. Bon, peut-être pas les personnes que vous citez, mais des tendances politiques qui se rapprochent aussi bien Italie, de la gauche que de la droite et qui doivent travailler ensemble, parce que sinon, ça sera Macron qui gagnera à tous les coups, ou Macron ou ses successeurs équivalents.
Cette alliance-là, elle existe en Italie, et on voit bien qu'elle est en train de faire long feu, puisque Matteo Salvini demande des élections anticipées pour se séparer du mouvement 5 étoiles.
Vous avez raison, mais la condition d'une alliance de mouvements politiques ou de personnes, c'est qu'il y ait une cohérence idéologique sur des points essentiels.
Et là, en Italie, il n'y en avait pas ?
Je crois que ce qui a manqué depuis le départ, et je l'ai dit depuis le départ en Italie, c'est une cohérence sur l'Europe. Voilà. Moi, je crois que l'Italie ne peut pas, comme la France d'ailleurs, l'Italie ne peut pas s'en sortir en restant dans l'Union européenne et dans l'euro. Si elle a connu tant de déboires récemment économiques, et finalement, une si grande difficulté à réguler son immigration, malgré un peu l'esbrouf et la communication de M. Salvini, qui fait des efforts, mais qui en réalité ne règle pas le problème de l'immigration. Les flux
continuent. Beaucoup d'efforts de communication. Mais...
Oui, il s'occupe de bateaux, mais les bateaux, c'est quelques dizaines de personnes. L'essentiel de l'immigration, c'est le regroupement familial. Et là, l'Italie est comme la France, confrontée à Schengen et l'Union européenne. Et en matière économique et sociale, elle est confrontée à l'euro, qui est une machine qui détruit l'industrie, qui détruit l'emploi, qui détruit la prospérité du peuple. Donc moi, je crois que l'Italie va devoir revenir aux urnes, je leur souhaite en tout cas, rapidement, et puis devra sortir de l'Union européenne et de l'euro.
Vous évoquez la sortie de l'Europe, on a l'exemple britannique à côté. Manifestement, on se dirige vers un no deal, pas d'accord. Vous êtes partisan de cette solution, un Brexit sans accord ?
Ah oui, oui. No deal, pas d'accord. Je crois que, en fait, vous savez, ces histoires de d'article 50 dans les traités, etc. Je me demande si c'est la bonne solution. Moi, je crois qu'un État souverain qui veut quitter une organisation supranationale qui ne lui convient plus, eh bien, doit pouvoir le faire rapidement. Et je pense que les Anglais vont le faire le 31 octobre. Et vous verrez qu'ils seront très heureux d'avoir retrouvé la démocratie, la liberté, l'indépendance et la prospérité.
Florian Philippot, le président du mouvement Les Patriotes, conseiller régional Grand Est et l'invité de France Info ce matin. Vous restez avec nous, on vous retrouve juste après le rappel de l'info. Il est 8h40, c'est avec Lauriane Delanoë.
Nora Quarin est morte d'une hémorragie gastro-intestinale. C'est ce qu'annonce la police de Malaisie ce matin. Elle écarte la piste d'un acte criminel et indique que la touriste franco-irlandaise a souffert d'un stress extrême et de la faim. Le corps de l'adolescente découvert avant-hier dans la jungle. Des avions bombardiers d'eau dans le ciel de l'Aude. En ce moment, un incendie près de Carcassonne depuis hier. Environ 900 hectares de végétation et une ferme détruite. 22 personnes évacuées d'un gîte dans le village de Pradelle-en-Val. Le navire Open Arms et 147 migrants à bord autorisés à entrer dans les eaux italiennes. Décision de la justice hier, elle annule un décret du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui promet un recours. 464 combattants y sont enterrés. Une cérémonie ce matin à la nécropole du Boulouris à Saint-Raphaël dans le Var. Commémoration des 75 ans du débarquement de Provence pendant la Seconde Guerre mondiale. Les footballeurs de Liverpool remportent la Supercoupe d'Europe face à Chelsea. Match arbitré hier soir par la Française Stéphanie Frappard. L'entraîneur de Liverpool salue sa prestation.
France Info. Florian Philippot, le président du mouvement Les Patriotes, est l'invité ce matin de France Info. Est-ce que vous êtes catholique, monsieur Philippot ?
Oui, je ne suis pas très grand pratiquant, mais je suis...
Nous sommes le 15 août. Est-ce que vous partagez le discours du pape sur les migrants ?
Non, je partage pas son discours. Il y a beaucoup de discours du pape, d'ailleurs, dans les affaires courantes que je ne partage pas, je vais vous dire. Sans problème, voilà. Je partage pas son discours sur les migrants parce que je suis dans la compassion et l'humanisme, bien sûr, comme tout le monde, je crois. Enfin, je l'espère, en tout cas, vis-à-vis de ces pauvres gens, parce que les migrants, la plupart, sont quand même des pauvres gens. Mais je crois que ça n'est pas en faisant croire qu'il y a de la place ici et qu'on pourra les accueillir dignement, parce qu'on a le devoir de les accueillir dignement si on les accueille, sinon on les accueille pas, qu'on est humaniste. Moi, je crois qu'on est humaniste quand on se bat de toutes nos forces, plus qu'aujourd'hui, pour que leur pays se développe, pour qu'ils soient heureux chez eux, pour que leur famille soit pas cassée, pour que des médecins ou des jeunes qui incarnent un avenir pour des pays qui en ont vraiment besoin en Afrique puissent rester développer leur pays. Voilà, moi je crois que
ça,
le vrai
humanisme. Ne doit pas accueillir les migrants qui sont à bord des bateaux en Méditerranée.
La France doit avoir une politique d'immigration très raisonnable. Elle ne peut pas se permettre d'accueillir beaucoup de monde de toute façon. Et elle doit avoir une politique d'asile. Moi, je suis pour le principe de l'asile. Mais l'asile, dans sa philosophie réelle, c'est-à-dire accueillir les gens persécutés, menacés dans leur vie pour des raisons politiques. Ça, c'est l'asile. Aujourd'hui, ça n'est plus l'asile. C'est complètement dévoyé pour des raisons économiques. Et en plus, ça enrichit des passeurs. C'est ça que le pape devrait...
Est-ce qu'il faut aller jusqu'à réquisitionner les bateaux, d'un mot ?
Oui. Oui, mais il y a des ONG complices là-dedans. Complices des passeurs, c'est évident.
Autre sujet de la rentrée, le CETA, le traité de libre-échange que l'Union européenne doit signer avec le Canada au nom du refus de ce traité. Une vingtaine de permanences d'élus ont été dégradées, pas assez condamnées par l'opposition selon Gilles Legendre, chef du groupe La République En Marche à l'Assemblée qu'on va écouter.
Ce que je trouve assez étonnant, c'est le silence assourdissant des oppositions sur ce sujet-là. Je pense que là, il n'y a plus de différence de parti ou différence de groupe parlementaire. L'ensemble de la représentation nationale devrait être unie pour condamner ces actes.
Il y a un silence coupable de l'opposition ?
Non, il y a. Moi, je trouve qu'En Marche n'a pas assez condamné le traité CETA. Ils l'ont même pas condamné du tout puisqu'ils l'ont approuvé.
Vous condamnez pas les dégradations de permanence des élus ?
Si, c'est pas bien de dégrader. Je vais pas encourager ça. Non, mais je veux dire, il y a pas mort d'homme.
C'est un peu d'ironie quand même.
Ouais, mais enfin, c'est pas nouveau. Dès qu'on déverse du fumier devant les permanences parlementaires, qu'il y ait quelques taxes, c'est pas bien, je suis d'accord. Moi, je veux pas qu'on s'attaque aux personnes, certainement pas, ni aux résidences privées. Je confonds pas les choses. Mais là, c'est un lieu public. Bon, bah, il faut essayer de, je sais pas que je l'excuse, mais j'essaie d'expliquer ce qui se passe. Il y a quand même des éleveurs français qui sont ulcérés parce qu'on va les mettre en concurrence avec du bœuf canadien alors qu'on sait très bien le faire ici.
Mais la concurrence, elle existe déjà, monsieur Philippe.
Ouais, mais là, on la renforce. On la renforce en plus de manière déloyale.
Ils y rajoutent des règles alors que...
Ah non, au contraire. On va faire venir de la production alimentaire, agricole, qui utilise des farines animales qu'on avait interdites depuis 20 ans en France. Et puis en plus, c'est pas bon pour la planète. Moi, ces gens-là, monsieur Legendre, ils nous parlent en permanence, ils ont raison, d'environnement, d'écologie, de la planète. Et en même temps, ils signent des accords de libre-échange qui vont rajouter des gros bateaux sur les océans, des avions dans les airs qui vont polluer. C'est complètement incohérent, c'est inadmissible. Et ça ruine des agriculteurs français et des travailleurs français.
Vous revendiquez écologiste, monsieur Philippe ?
Ah, moi, je suis très écolo, vraiment. Et j'ai beaucoup réfléchi et travaillé sur le sujet. Et je pense que la France a une vocation sur le sujet. Elle a une biodiversité incroyable avec son Outre-mer et sa métropole. Elle est maîtresse des mers sur 11 millions de kilomètres carrés sur le globe. Et ça lui donne une responsabilité et une vocation particulière en matière, je crois, environnementale, sur la biodiversité, la déplastification des mers et des océans, sur le traitement des eaux et bien sûr contre le réchauffement climatique.
Alors justement, vous parlez d'écologie. La jeune militante écologiste Greta Thunberg fait cap sur New York en ce moment pour la conférence des Nations Unies, son voilier traverse l'Atlantique. Hier, à son départ, elle disait ceci.
Je ne dis à personne ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Je fais cela parce que j'en ai envie. Je suis une des très rares personnes dans le monde qui peut se le permettre. Donc je pense que je dois saisir cette chance.
Vous approuvez son discours, Florian Philippot, à Greta Thunberg ?
Elle nous a appris hier qu'elle ferait ses besoins dans un seau en plastique. Moi, je trouve pas ça très écolo. On aurait pu se passer de ça, puisqu'elle l'a dit en interview, je la cite. Voilà, non, je suis dans l'ironie pour vous répondre, mais parce qu'on est dans le grotesque.
Elle vous agace beaucoup. Hein.
Mais c'est pas elle. Elle a 16 ans, elle ferait mieux d'être à l'école. Voilà ce que je lui dis. Voilà. À 16 ans, on apprend. La jeunesse, elle doit être dans la formation et l'instruction. Et c'est par la formation et l'instruction que cette jeune Greta saurait, par exemple, que, contrairement à ce qu'elle dit aujourd'hui, que les accords de libre-échange, c'est mauvais pour l'environnement. Puisque quand on l'interroge bizarrement sur le CETA, quand elle est venue à l'Assemblée nationale, elle nous a répondu « I don't care ». Alors, les journalistes français ont traduit gentiment « je n'ai pas d'avis », ça ne veut pas dire ça, ça veut dire « je m'en fiche ». Alors, moi, je trouve qu'on s'en fiche pas.
Elle
de ça.
Dit « je ne donne pas de leçons, je fais ce que j'ai à faire, je sensibilise ».
Soit elle sensibilise, soit elle sensibilise pas. Quand elle dit « je m'en fiche des grands accords de libre-échange qui sont en train de détruire la planète », je suis désolé, elle ne sensibilise pas. Ça, c'est du marketing.
Est-ce qu'elle n'est pas à même de toucher les jeunes générations ?
Les jeunes générations, je crois qu'elles sont touchées. Maintenant, il faut sortir justement du marketing et il faut aller rapidement, urgemment, il faut se retrousser les manches, vraiment, et agir, relocaliser l'activité ici. Je l'ai dit, travailler sur la déplastification. On va devoir planter des dizaines de milliards d'arbres. Ça devrait être un grand chantier des Nations Unies. Chaque pays dans le monde devrait avoir un quota d'arbres à planter chaque année pour capter du CO2. Je dis cela, c'est pas quelques arbres par-ci par-là, c'est des dizaines, des centaines de milliards d'arbres à planter. Il y a une étude qui a montré que 1200 milliards d'arbres permettraient de capter 2/3 du CO2 qu'on a émis humainement depuis 1800. Ça, c'est concret, ça peut être fait dès demain. Je crois que l'Éthiopie a planté en une journée 300 millions d'arbres. Voilà, après, faut les entretenir, faut les arroser, mais je veux dire, ça, c'est beau comme chantier. Mais ça, Greta n'en parle pas. Greta, s'il y a une espèce en plus de religiosité malsaine autour d'elle, où dès qu'on la critique, on est dans le blasphème, c'est insupportable. Ça, c'est du marketing. Je crois que ça fait sourire jusqu'aux oreilles les grandes multinationales, monsieur Macron et quelques autres qui sont pas les amis de l'environnement, mais ça n'est pas une combattante de l'environnement. Il faut être sérieux sur le sujet.
Florian Philippot, que prévoyez-vous pour votre rentrée politique?
Alors, pour la rentrée, moi, je voudrais travailler sur, Concrètement, je vais l'annoncer ici puisque j'y ai réfléchi ces dernières heures. On va faire une convention municipale le 28 septembre. Puisque nous serons présents les patriotes au municipal. J'appelle tout le monde d'ailleurs à adhérer à notre mouvement. On ne sera pas présents simplement en témoignage, on va travailler sur une vraie charte, hein, les forêts urbaines, la réduction des impôts locaux, la sécurité.
Des candidats partout ?
La démocratie directe dans la ville. Non, on ne peut pas mettre des candidats partout, mais on va essayer d'avoir des candidats soit tête de liste, soit sur des listes de rassemblement.
Des alliances donc ?
Oui, 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 des alliances communales. Dans l'intérêt communal, on va être très pragmatique. On va faire cette probablement à Paris le 28 septembre cette convention. Pourquoi le 28 septembre ? Parce que ça sera les 2 ans à peu près de notre mouvement, les Patriotes. On reste le plus jeune mouvement politique de France. Et puis je vais travailler dans le champ électoral politique, mais pas que, sur le rassemblement des souverainistes de gauche et de droite. Parce que je crois que c'est la solution, c'est le rassemblement des souverainistes de gauche et de droite. Et je vais y travailler pas que dans le champ électoral.
Votre parti est dans quel état, Florian Philippot ? Est-ce que il y a des adhésions ? Comment ça se passe après le résultat ? Décevant plus que ça,
on peut
même
dire,
j'imagine,
décevant, des européennes. Bien sûr, décevant. On a été déçus. On n'a pas été les seuls dans cette élection. On a surtout été déçus parce qu'on n'a pas parlé d'Europe pendant les élections européennes. Parce que Monsieur Macron, on a fait un référendum sur sa personne. Enfin bon, écoutez, ça c'est le passé. Nous, notre mouvement, oui, bien sûr, il y a des adhésions. Les gens peuvent adhérer sur le site des Patriotes. Pourquoi ? Parce que on a été un peu en avance probablement sur le rassemblement. Je le disais, au-delà de la gauche et de la droite. J'ai vu qu'aujourd'hui, dans des analyses, on était rejoints. Il y a des gens qui sont toujours sur l'incohérente union des droites ou l'incohérente union des gauches, ça n'a pas de sens. Il faut rassembler, vous savez, pour donner de la force, de l'énergie à notre pays, il faut rassembler des gens qui viennent de la gauche et de la droite. Ça va être urgent, ça va être vital. Sinon, on aura toujours les ultralibéraux, on aura toujours les Macron, les européistes qui gagneront. Et donc les Patriotes, c'est un peu l'étendard pour ça, c'est un peu l'aiguillon pour cela. Et c'est pour ça que c'est important de nous rejoindre. Et c'est pour ça que nous aurons, je crois, des choses importantes à faire dans les mois qui viennent.
Et rassembler jusqu'où, éventuellement le Rassemblement National ? Est-ce que vous êtes expliqué avec Marine Le Pen depuis votre départ ?
Mais il y a des adhérents, il y a des élus du Rassemblement National qui sont sur cette ligne. Vous savez, je crois que c'est un article du Figaro il y a 2-3 jours qui disait, qui citait quelqu'un qui disait c'est la ligne Philippot. Alors c'est gentil, mais c'est vrai. Enfin, en quelque sorte, c'est vrai parce que je le dis. Moi, je suis toujours été cohérent là-dessus. Effectivement, j'ai toujours pensé qu'il fallait rassembler au-delà de la gauche et de la droite. Alors il y en a au Rassemblement National, il y en a à la France Insoumise, il y en a chez Nicolas Dupont-Aignan, il y en a au Parti Socialiste, il y en a partout. Et les Patriotes, c'est une belle maison pour cela, mais ça suffit pas les Patriotes. Il faut qu'on fasse un rassemblement beaucoup plus large. Il y a des intellectuels. J'ai vu Patrick Buisson qui avançait sur cette idée. Bah, je m'en réjouis. Voilà. J'espère le rencontrer prochainement pour qu'on puisse en discuter. Vous voyez, c'est un peu nouveau. J'aurais pas dit ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'aimerais bien discuter beaucoup avec lui parce que je crois qu'il a là-dessus bien raison.
En un mot, parce que c'est la fin de cette émission, est-ce que vous serez, vous, candidat à Forbach ?
On verra. C'est pas du tout exclu. C'est pas du tout impossible. Et si je le suis, je le serai en tête de liste parce que je crois que mon devoir, c'est d'être devant et de mener ce beau combat. Et il y a beaucoup de choses à faire à Forbach, je peux vous l'assurer.
Merci Florian Philippot d'avoir été l'invité
Merci
ce matin de France Info, président des Patriotes et conseiller régional Grand Est. Et merci aussi à vous, Neila Latrousse.